Salut à toutes, salut à tous, c'est Carrefour du Monde. Vous écoutez Carrefour du Monde à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM, à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM et à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 95.2 FM. Aujourd'hui, nous consacrons 30 minutes à l'énergie et à l'écologie. L'état de la planète inquiète de plus en plus d'esprits, que ce soit au sein des organisations environnementales, mais aussi au sein de grosses institutions comme l'ONU qui publie d'année en année des rapports les uns plus alarmants que les autres, sans oublier une grande partie des opinions publiques mondiales qui ont l'impression d'aller droit dans le mur. En 100 ans, l'état de la planète ne s'est jamais autant dégradé par l'intervention de l'homme, le climat se réchauffe lentement mais sûrement, l'eau douce se fait rare, les forêts disparaissent et des dizaines d'espèces vivantes sont en voie d'extinction. Ce douloureux constat semble souligner la perversité du tout économique qui dénigre les considérations écologiques, préférant le profit rapide et le court terme. La pollution de la planète paraît être l'un des résultats visibles des dangers des politiques ultralibérales. Mais démarrons cette spéciale énergie et écologie avec la France. La France qui est le plus gros producteur d'énergie nucléaire d'Europe. Et comme c'est le cas tous les 10 ans, les plus anciens réacteurs des centrales françaises font l'objet d'un nouveau bilan de santé. Cet état des lieux effectué par EDF doit s'étaler sur plusieurs années. C'est au terme de ces visites qu'un nouveau feu vert est donné ou non à la poursuite du nucléaire. Quoi qu'il en soit, le gouvernement français a déjà réaffirmé sa préférence pour l'option nucléaire. Jean-Pierre Raffarin devrait prochainement annoncer le lancement du réacteur 3e génération. En France, le nucléaire semble encore avoir de belles années devant lui. Explication de Nicolas Perronnet à Grenoble.
Actuellement, personne ne peut réellement dire quelle est l'espérance de vie précise des réacteurs en service, mais EDF table sur 40 ans minimum. Dans cette hypothèse, l'arrêt des premières centrales devrait intervenir entre 2015 et 2020. Début 2004, le gouvernement français devrait annoncer le lancement du réacteur 3e génération, l'EPR, destiné à renouveler une partie ou la totalité du parc nucléaire existant. Une préférence pour l'option nucléaire qui a été clairement réaffirmée par le gouvernement dans un avant-projet de loi d'orientation sur les énergies. Un passage en force d'emblée dénoncé par le réseau d'associations Sortir du nucléaire, qui affirme qu'en l'état actuel, la question des déchets radioactifs n'étant pas encore réglée, construire d'autres réacteurs est une décision totalement irresponsable. La technologie EPR, à savoir réacteur européen à eau sous pression, est le fruit d'une politique énergétique entièrement aveuglée par le lobby technologique. Un avis que partagent les Verts, le parti écologiste fustige le coût et la dangerosité de l'option nucléaire, lui préférant de loin les énergies renouvelables bon marché et sans danger. Il est vrai qu'avec ses 58 réacteurs nucléaires, la France n'a pas de réel besoin en nouvelles centrales. Sa surcapacité d'une dizaine de réacteurs l'obligeant même à exporter son électricité tout en gardant sur son territoire l'ensemble des déchets radioactifs pour des milliers d'années. L'argument de la nécessité de l'EPR pour combler un manque d'une ou deux décennies ne tient donc pas, d'autant que la France ne verra pas sa surproduction d'énergie se résorber avant 2020 et que l'un des objectifs de la future loi d'orientation sur l'énergie est justement de maîtriser la croissance de la demande. Par ailleurs, rien ne dit que le réacteur EPR est plus sûr que les réacteurs actuellement en service. Alors la seule véritable urgence semble être de remplir le carnet de commandes du groupe Areva, dont la société Framatome qui a étudié l'EPR fait partie, tout en donnant un signal politique favorable pour que d'autres pays européens, comme la Finlande qui décidera en décembre, intègrent l'EPR dans leur prochain choix de production d'énergie. Mais cette démarche s'apparente davantage à du clientélisme qu'à une véritable politique énergétique. Grenoble, Nicolas Perronnet, Carrefour du Monde.
Le Royaume-Uni, à l'instar de nombreux pays européens, a ratifié et signé le protocole de Kyoto. Cependant, contrairement à la France et à la Belgique, l'énergie la plus utilisée pour fournir de l'électricité est le pétrole. Du coup, on se demande comment les Britanniques vont atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. À Londres, Faïd Swahili.
Le Royaume-Uni fait la chasse à la pollution atmosphérique. Bien que l'électricité soit produite principalement grâce à des ressources fossiles, pétrole et charbon, et donc polluante, le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour faire réduire la pollution atmosphérique ailleurs que dans ses centrales électriques. Le Royaume-Uni a ratifié le protocole de Kyoto et compte bien atteindre ses objectifs, soit passer de 2% des émissions mondiales de CO2 en 1996 à 1,3% à l'horizon 2010. Parmi les mesures prises, on peut citer notamment un partenariat mis en place entre la compagnie publique National Power et Greenpeace, permettant aux personnes qui le veulent de recevoir de l'électricité provenant uniquement de centrales marémotrices ou d'éoliennes. Mais la mesure la plus spectaculaire a été mise en place il y a maintenant 9 mois à Londres, la capitale britannique avec ses 10 millions d'habitants et la ville d'Europe où la circulation est la plus difficile. Pas de périphérique autour de la ville, peu de places de parking et surtout des bouchons énormes. Un vrai cauchemar pour les conducteurs. Un automobiliste londonien circule à la vitesse moyenne de 16 km/h et passe la moitié de son temps dans les bouchons. Pour remédier à cela, depuis février dernier, les automobilistes doivent s'acquitter d'une taxe de 5 livres par jour pour circuler dans le centre-ville. Le but de cette mesure, désengorger les rues londoniennes, réduire la pollution atmosphérique et lever la somme d'1 milliard de livres pour financer l'incitation à l'usage et la rénovation des transports en commun. La mesure ne s'applique qu'en semaine de 7h à 18h30. Les riverains de la zone taxée ne paient que 10% du montant de celle-ci et les véhicules des personnes handicapées en sont exemptés, tout comme les deux roues, les taxis et les bus. Pour l'instant, ça marche plutôt bien puisque la circulation a baissé de plus de 15%, objectif fixé par le maire Ken Livingstone. Mais il faut relativiser, cependant, la zone à péage ne représente qu'1,3% de la superficie du Grand Londres. Et surtout, la zone à péage est celle où se situent les sièges des principaux acteurs économiques du pays, mais aussi de nombreux commerces. Et les commerçants font un peu la gueule, affirmant que la zone à péage empêche leurs clients de se garer et donc de faire baisser leur chiffre d'affaires. Oubliant sans doute que se garer dans le centre de Londres, c'est sacrément difficile. Mais leurs inquiétudes ne font que commencer. Ken Livingstone envisage d'agrandir cette zone. Faïd Swahili pour Carrefour du Monde à Londres.
En Suisse, on préfère les biais que le vert. La Confédération n'est plus un modèle d'écologie. La Suisse se démarquait pourtant par de nombreuses politiques soucieuses de l'environnement, comme le ferroutage face au transport routier. De plus en plus, les préoccupations vertes sont mises à mal par le discours néolibéral dominant. Plus de détails avec Laurent Dufour à Lausanne.
Protection des eaux, réserves naturelles, normes environnementales dans l'industrie. La Suisse a au fil des ans développé bon nombre de lois allant dans le sens de l'écologie. Mais aujourd'hui, si les Verts font partie des partis politiques qui ont progressé lors des élections fédérales le 19 octobre dernier, les protecteurs de l'environnement rencontrent des oppositions farouches avec un argument central, le coût. À l'heure de l'austérité dans les finances publiques, à l'heure où la croissance peine à reprendre, les milieux de l'environnement sont peut-être parfois allés trop loin dans la provocation, avec des propositions économiquement peu réalistes, une sortie rapide du nucléaire, l'installation de taxes sur le CO2, la gratuité des transports publics, ces thèmes n'ont pas ou pas encore passé. Mais il y a d'autres dossiers sensibles qui se sont concrétisés ces 5 à 10 dernières années, lorsque l'écologie avait le vent en poupe. Par exemple, un programme de réintroduction du lynx ou un autre qui visait à faciliter le retour spontané du loup disparu des forêts suisses, mais qui revient notamment par l'Italie. Ces programmes ont coûté cher, très cher, avec des bénéfices peu visibles pour la population et même parfois des préjudices lorsque les prédateurs s'attaquent aux troupeaux et qu'il n'est légalement pas possible de les abattre avant qu'ils n'aient tué leur 20e ou leur 30e mouton. Le très écologiste directeur de l'Office fédéral de l'environnement a joué le perfectionniste multiplier les études. Son office est sous le feu des critiques aujourd'hui et cette année le Parlement a retranché 104 millions de francs suisses, 65 millions d'euros de son budget. C'est beaucoup et cela risque de compromettre le bon fonctionnement de cet organe supposé veiller à la sauvegarde de la nature. Et quelques excès provoquent des réactions en chaîne. Le programme appelé Suisse Énergie, en place depuis une dizaine d'années, s'est vu cette année vidé de sa substance dans le cadre d'un programme d'économie. Suisse Énergie devait promouvoir les énergies alternatives comme le solaire, la géothermie, le chauffage à bois, etc. Et ce, au moyen de subventions. Aujourd'hui, dans un contexte de finances publiques difficile, le ministère des Finances estime que les prix de ces équipements ont suffisamment baissé et qu'ils sont devenus suffisamment courants pour que l'on puisse se passer des subventions. Et il y a un autre front sur lequel les écologistes sont contestés, celui du droit. Depuis une vingtaine d'années, les organisations de protection de la nature, c'est-à-dire des organisations comme le WWF, pas les partis politiques, dispose sur toute la Suisse du droit de recours lorsqu'un projet risque de nuire à la nature. Et ce sont les seules organisations à en disposer. Le droit existait déjà pour les privés directement concernés. Je vous donne un exemple. Un promoteur veut construire à côté de votre villa un centre commercial. Vous pouvez faire opposition si vous estimez qu'il y aura des nuisances. Et là, la loi peut obliger le promoteur à vous dédommager, à réduire son projet, voire à l'abandonner si votre opposition est fondée. Alors avant que ce droit ne soit accordé aux écologistes, c'était souvent tout et n'importe quoi, notamment en matière d'infrastructures touristiques. On a vu des pistes de ski tranchées dans des forêts au bulldozer en une seule nuit, des réalisations irréfléchies et disproportionnées. Mais depuis que le droit existe pour le VVF et consorts, c'est l'inverse. Plus moyen pour les acteurs du tourisme de développer des projets de remontées mécaniques, de canons à neige, de parcs de loisirs, sans s'engager dans des années de procédures d'instance en instance, souvent jusqu'à la Cour suprême. Cela coûte cher, très cher, cela prétérite l'économie de régions entières tournées vers le tourisme, pour souvent aboutir tout de même à une autorisation de construire contre indemnisation financière aux organisations de protection de la nature. D'aucuns aujourd'hui qualifient ce procédé de racket et voudraient limiter leurs droits de recours. Par leurs excès parfois, par leur manque de pragmatisme souvent, les protecteurs de la nature en Suisse risquent aujourd'hui de tuer la noble cause de l'écologie. Lausanne, Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
Il y a un an, le naufrage du pétrolier Prestige au large des côtes galiciennes au nord de l'Espagne avait donné lieu à l'une des pires marées noires. La région sinistrée avait également vécu un véritable drame social puisque des centaines de milliers de personnes vivent de la mer. Aujourd'hui, alors que les conséquences économiques sont plus ou moins maîtrisées, c'est le bilan écologique de la catastrophe qui donne froid dans le dos. Emmanuel Stels à Madrid.
Le pétrolier Prestige sombre au large des côtes espagnoles dans un infâme gargouillement de fioul qui deviendra l'une des pires marées noires vécues en Europe. C'était il y a un an. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, la catastrophe écologique provoquée par le naufrage du Prestige est toujours en cours. Non seulement, et ça va de soi, parce que les conséquences de l'atroce pollution se feront sentir pendant des dizaines d'années, voire plus, mais aussi, et c'est plus surprenant, parce que les autorités espagnoles ne sont toujours pas parvenues à neutraliser l'origine de la marée noire et que le Prestige continue de cracher son fioul visqueux dans l'océan Atlantique. Alors qu'il est la carcasse du pétrolier, gît par 3700 mètres de fond et est encore fissuré de nombreuses brèches. Le pétrole s'échappe actuellement au rythme d'une tonne par jour et le gouvernement espagnol, qui ne manque pas de cynisme, y voit un énorme progrès. Il est vrai que jusqu'au premier jour de l'été, c'était pas moins de 100 tonnes qui étaient encore déversées quotidiennement dans l'océan. Grâce au travail du mini sous-marin français Nautil, la plupart des fuites ont pu être colmatées. Au total, le Prestige a largué 64 000 tonnes de fioul dans l'Atlantique, dont au moins 10 000 tonnes qui n'ont toujours pas pu être récupérées. Elles voguent encore sous la forme de petites galettes dispersées à la surface de l'eau et on en trouve du Portugal jusqu'à l'Écosse. Pour la faune, les conséquences sont désastreuses. Des centaines de milliers d'oiseaux ont péri ou périront des suites de la catastrophe. L'incidence à long terme sur l'écosystème est incalculable, mais les rapports publiés à ce sujet estiment que les effets de la contamination de la faune et des fonds marins pourraient perdurer durant des dizaines d'années. Les rapports scientifiques émanent d'organismes privés, comme certaines universités ou encore l'organisation écologique WWF. Le gouvernement espagnol s'est encore efforcé dernièrement de discréditer ce genre de documents alors qu'il s'agit de l'unique source d'information disponible sur les conséquences de la catastrophe. Un an après le désastre, en effet, aucun rapport officiel n'a été publié, aucune estimation à long terme n'a été avancée et les risques encourus au niveau de la sécurité alimentaire sont totalement occultés, voire niés. Comme ce rapport de l'Université de La Corogne qui attire l'attention sur les taux d'hydrocarbures inquiétants contenus dans les poissons pêchés au nord de l'Espagne. D'après les experts, le fioul du Prestige a fait une entrée fracassante et durable dans la chaîne alimentaire marine, avec les effets cancérigènes que cela implique pour l'être humain. Mais le gouvernement a balayé l'information d'un revers de la main en estimant que les allégations contenues dans ce rapport étaient périmées. Mais le rapport en question contient des données sur les effets chroniques de la pollution qui seraient même intégrés au processus de reproduction de certaines espèces. Comment une telle information peut-elle être périmée ? Mystère.
C'est vrai qu'en Espagne, le gouvernement de José María Aznar a très mal digéré l'affaire du Prestige. Dans un premier temps, Madrid a tenté d'étouffer l'affaire en la reléguant au rang de faits divers. Les responsables politiques ont ensuite usé et abusé de fanfaronnades pour masquer leur incompétence, comme la décision d'éloigner le navire de la côte qui a finalement donné lieu à une extension de la marée noire. Mais il reste surtout une question en suspens. Si cela se passait à nouveau, Emmanuel Stels, l'Espagne serait-elle mieux préparée pour affronter un tel désastre ?
Pendant que la ministre espagnole de l'Environnement survole la Galice en s'extasiant sur l'état impeccable des plages, plus de 1000 volontaires sont encore à pied d'œuvre pour nettoyer la côte. Le fioul s'est parfois niché dans des recoins presque inaccessibles, sous les rochers par exemple, mais en d'autres endroits, les taches noires sautent aux yeux et l'odeur prend encore à la gorge. Pourtant, ce sont des images qui échappent encore aux caméras pro-gouvernementales. En réalité, alors que les autorités se congratulent, et c'est l'image qu'elles ont donnée depuis le tout début de la crise, le plus gros du travail reste à faire. Malgré tous les soi-disant bons résultats claironnés par le gouvernement, tous les plans de réhabilitation annoncés à répétition mais toujours pas mis en œuvre, le gouvernement ne parvient pas à démontrer les progrès engrangés et surtout le manque de préparation face à ce genre de catastrophe reste flagrant. Pour lutter contre la pollution du prestige, l'Espagne ne disposait d'aucune ressource et a dû faire appel à des infrastructures étrangères. Les moyens de sauvetage et de remorquage et les responsables de la sécurité maritime avaient été au cœur de la tourmente il y a un an, vu la désorganisation avec laquelle on avait géré le cas du Prestige. Aujourd'hui, les moyens à disposition, loin d'avoir été renforcés, sont toujours aussi nuls et les responsables des décisions fatales d'il y a un an ont bénéficié de promotions et de décorations. Si un désastre comme celui du Prestige venait à se répéter aujourd'hui en Espagne, la situation serait probablement tout aussi incontrôlée qu'il y a un an. Aucun protocole d'urgence n'a été élaboré pour faire face à ce genre de catastrophe et depuis un an, plus de 1000 bateaux poubelles du genre du Prestige ont navigué au large des côtes espagnoles. Le gouvernement central et le gouvernement régional de Galice, la région la plus affectée, se sont toujours opposés fermement à l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la crise. Étant donné qu'il est impossible de savoir exactement ce qu'il s'est passé dans le cas du Prestige, les enseignements à tirer pour l'avenir restent flous. La commission d'enquête sera finalement menée au niveau européen, malgré les efforts soutenus de l'Espagne pour s'y opposer. Pour le parti populaire du Premier ministre José María Aznar, la Galice s'est rétablie et regarde désormais l'avenir avec optimisme. Entrée en pré-campagne électorale, les conservateurs dispensent allègrement ce genre de petites phrases paternalistes. La Galice ne voit malheureusement pas les choses du même œil. À Madrid, pour Carrefour du Monde, Emmanuel Stales.
Après la tournée de nos correspondants, je vous propose de voyager parmi des archives sonores sur l'énergie et l'écologie, de la marée noire des côtes bretonnes en 1967 aux déchets nucléaires en passant par la crise de la dioxine. Ce collage sonore retrace cette réalité environnementale actuelle, une réalité faite de graves attaques contre la planète et dont aucune solution concrète n'a été développée face aux pollutions.
De Saint-Malo. La nappe de pétrole attaque maintenant combien ? Est-ce qu'on peut dire 100 km de plage ?
Oui, une bonne centaine de kilomètres de plage, de criques, d'îlots, certainement, oui.
Quelle est l'épaisseur des couches de mazout qui recouvrent le sable ?
Évidemment, c'est très variable. Il y a des endroits où ce sont des boules gluantes, vous savez, qui ont pu, par la sueur, s'attacher au pétrole. Et ces boules peuvent être assez grosses, mais en général, elles atteignent de 12 à 25, 30 cm.
Et comment peut-on les évacuer ?
Alors ça, le problème n'est pas encore réglé, parce qu'actuellement, évidemment, on s'attaque uniquement par la sciure de bois à la coagulation, en quelque sorte, du mazout. Mais il y a des tracteurs qui sont par dizaines groupés en certains points critiques et qui sont chargés d'aller lever, en quelque sorte, ces boules de mazout une fois qu'elles sont agglutinées.
On ne peut donc dire en aucune manière que la route du pétrole est coupée.
Ah, sûrement pas. Sûrement pas. Il faudra attendre des jours et des jours pour voir, en fonction des courants sous-marins et de la direction des vents, où le pétrole va aller s'installer. Bien sûr, les vents peuvent faire refluer ces nappes vers Jersey ou Guernesey, mais il n'y a aucune espèce de raison que ce même vent et ces mêmes courants sous-marins ne les amènent pas, au contraire, plus profondément à l'ouest sur les côtes bretonnes.
Nos enquêtes et nos reportages.
Un ferryboat entre dans le port de Zeebruges. Il est 4 heures du matin. Il pleut.
C'est le Norfolk Ferry. Il arrive en droite ligne d'Harwich avec, dans sa cale, un chargement insolite.
Le navire est maintenant à quai. Et les premiers wagons sortent de cale.
Dans ces wagons, il y a des métaux, du textile, des jerrycans et pas mal d'autres choses. Somme toute, rien de particulier s'il n'y avait
dans certains de ces wagons des fûts de résidus radioactifs. Ces fûts sont-ils dangereux? C'est pour le savoir que nous sommes là.
Sur le pont, nous avons rencontré un matelot qui venait de participer au déchargement.
We put a protest in.
Nous avons introduit une protestation auprès des syndicats, nous a dit ce matelot, qui a ajouté que des experts avaient prétendu que l'opération était absolument sans danger.
Dans l'immédiat, nous sommes certains qu'il n'y aura pas d'accident. Mais je pose la question, est-ce qu'on peut assurer, croyez-vous, dans l'état actuel des connaissances, que dans 10 ans, il n'y aura pas de suite?
Je pense qu'il peut toujours y avoir des surprises. Il y a trop d'inconnus dans ces phénomènes. Par conséquent, je crois que tout ce que peut dire un biologiste, c'est qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement circonspect, puisque non seulement nous avons des inquiétudes présentes, mais nous avons, pour ainsi dire, des inquiétudes futures, en ce sens que la science peut nous enseigner des phénomènes encore inconnus et qui ajouteront encore à notre inquiétude et motiveront encore plus prudence.
Circonspection, prudence. Tels sont les conseils de M. Rostand, et il sait de quoi il parle, car selon lui, les caractéristiques de la race humaine sont menacées même par des rayons de faible intensité.
Nous pouvons dire dès maintenant que du seul fait du développement de l'industrie atomique et surtout des explosions nucléaires, un grand nombre d'individus naîtront dans une ou deux générations qui seront tarés, qui seront mal formés par la faute de ces radiations. C'est ce que j'ai appelé, d'une façon un peu brutale peut-être, le crime dans l'avenir.
Après la France, la Belgique est le pays d'Europe qui consomme le plus d'électricité d'origine nucléaire au départ des centrales de Doel et de Tihange. Au début des années 70, les électriciens pensaient que la fission de l'uranium dans un réacteur allait remplacer le pétrole dont les prix flambaient. Mieux encore, on allait retraiter le combustible usé qui sortait de la centrale pour en faire à nouveau un combustible pour des réacteurs encore plus puissants. On se mettrait ainsi à l'abri d'une hausse des cours de l'uranium. On pensait même avoir trouvé une énergie quasi inépuisable avec des surgénérateurs qui produiraient plus de matière fissile qu'ils n'en consommeraient. Mais voilà, coûteux et peu fiables, ces réacteurs rapides ne se sont jamais développés. L'usine de La Hague apparaît aujourd'hui comme une forteresse assiégée. La COGEMA a été mise en examen en janvier dernier par la justice française pour mise en danger d'autrui. Le plaignant est un militant antinucléaire local qui se bat pour que chaque pays rapatrie ses déchets radioactifs issus du retraitement.
Donc la COGEMA est aujourd'hui mise en examen, surtout sur la base des déchets étrangers, parce que certains sont là depuis une bonne vingtaine d'années.
Alors il y a notamment tous les déchets belges recyclés ici qui sont là.
Bien oui, hein, nous partons du principe que c'est à chaque nation, à chaque région de l'Europe ou de la planète de gérer ses propres sales problèmes.
Thank you.
Aujourd'hui, on est venu prendre mesure pour le nouveau fauteuil de Yoline. Car si elle ne marche pas, ne parle pas, elle grandit. Selon ses parents, c'est même tout ce que lui ont laissé les dioxines crachées par l'incinérateur d'ordures ménagères de Wilreich. Pour les responsables de l'intercommunal, par contre, politiques, techniciens, financiers, leur incinérateur n'y est pour rien, c'est une malheureuse coïncidence. Tout est là. À ceci près que dans ce quartier de Wilreich, sur une population de 3000 habitants, on dénombrerait jusqu'ici une vingtaine de malheureuses coïncidences.
Donc, résumons-nous. Dioxine, pour moi, tarte à la crème, sûr. Sûr, parce qu'on invente n'importe quoi.
Quel âge a Yoline ?
Yoline est Ria.
3 ans.
C'est une belle enfant. Mais quand vous êtes-vous aperçu qu'il y avait un problème ?
À un mois, on a diagnostiqué un problème génétique. Incontinentia pigmenti, qui produit des troubles neurologiques, des problèmes aux dents, aux yeux et surtout un handicap moteur et mental.
Je crois qu'on ne peut pas développer une psychose de danger à propos des fumées, disons, des incinérateurs. Je ne suis pas inquiet pour diverses raisons. C'est que nous équipons les incinérateurs existants de toutes les technologies de pointe, d'abord pour être en conformité avec les directives européennes et même être en dessous des normes européennes fixées.
Si l'incinérateur de Tumède était situé en Flandre, il serait aujourd'hui fermé.
On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait, par le fait de l'incinération, des retombées de dioxine qui soient préjudiciables à la santé de la population.
Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, qui dénigrent ces informations, mais souvent ce sont des personnes directement intéressées par les lobbies d'incinérateur.
Mettez-vous à la place d'un groupe de pression quelconque. Lorsqu'il veut faire passer une idée auprès des responsables gouvernementaux ou même de l'opinion publique, il faut s'appuyer sur une instance scientifique. Donc en France, bien entendu, l'instance la plus respectée, c'est l'Académie des sciences. Donc il a été créé à l'Académie des sciences un groupe. Et là, tout était dans le choix des experts. Il se trouve, c'est peut-être un pur hasard, que la majorité, c'est-à-dire, je pense qu'il y avait on était 17, je crois, et il y avait à peu près 15 experts qui, d'une façon ou d'une autre, collaboraient avec l'industrie du chlore ou de ses dérivés.
Si je vous entends bien, la conclusion était imposée dès le départ.
Absolument, je crois que ça ne faisait aucun doute, puisque de toute façon, comme j'étais le seul à ne pas être d'accord avec ces conclusions, j'en ai été gentiment et poliment du reste exclu.
Bon, ça s'appelle cacher la vérité à l'opinion publique.
D'une certaine façon, oui.
C'est ainsi que se termine cette spéciale énergie et écologie de Carrefour du Monde. Merci à tous nos correspondants, Emmanuel Stels à Madrid, Laurent Dufour à Lausanne, Nicolas Perronnet à Grenoble et Faïd Swahili à Londres, sans oublier Clarisse Sérignat à la réalisation depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Carrefour du Monde à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM, à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM et à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 95.2 FM. Et puis, il y a notre site internet où vous pouvez trouver toutes nos archives et tout plein d'infos. C'est sur carrefourdumonde.org. Ici Nicolas Willems à Bruxelles. À la prochaine. Ciao.